Bonjour à tous. Je suis très content d'être là vraiment avec vous. C'est un vrai plaisir à chaque fois de revenir. Et donc j'en profite pour vous souhaiter à tous, bien sûr, une bonne année. Que le Seigneur vraiment vous renouvelle chacun et qu'il vous encourage et que cette année soit vraiment conduite par lui pour vous et que vous puissiez progresser dans votre relation avec lui et être béni. Bien. Alors, je voudrais commencer en vous posant une question. Qu'est-ce que vous appréciez le dimanche matin ? Peut-être que pour vous, le dimanche matin, en venant au culte, c'est notamment un bon moment en famille, où on se réjouit le dimanche, nous pouvons tous être réunis. Peut-être aussi que vous êtes attaché à ce lieu. Vous y avez des souvenirs, une histoire avec ce lieu, ça fait très longtemps que vous venez là, et vous appréciez vous retrouver dans cet endroit, ce lieu de culte. Peut-être que vous aimez aussi beaucoup le chant, la musique, et exprimer à Dieu votre adoration. Peut-être que vous aimez aussi beaucoup prier avec le peuple de Dieu pour exprimer aussi à Dieu toute la louange qui lui est due. Tout ce qu'il est pour vous, ce qu'il fait pour vous. Peut-être aussi que vous êtes là ce matin de passage et que vous découvrez une église ou que vous êtes là tout simplement parce que vous avez décidé de prendre des bonnes résolutions pour 2013 et de ne manquer aucun culte et en plus d'être à l'heure, ce qui n'est pas de la tarte forcément tous les dimanches. Toutes ces choses sont de bonnes choses. Dieu aime voir son peuple l'adorer et le prier. Mais il est intéressant de voir ce que Dieu attend de nous quand nous nous retrouvons. Je vous invite à regarder ensemble ce matin ce que Dieu nous enseigne à ce sujet, ce que Dieu attend de son peuple. Et nous allons donc faire ensemble un voyage dans le temps. Nous allons partir au temps de Néhémie pour voir ce qui s'est passé à cette époque-là. Et rapidement, je vais vous rappeler le contexte du texte que nous allons étudier ensemble ce matin. L'époque de Néhémie est une époque de retour d'exil. Le peuple, pour s'être éloigné de Dieu, s'être détourné de son enseignement, s'être livré au péché, à l'idolâtrie des autres nations, a été déporté par Dieu comme un jugement à Babylone. Et puis trois générations plus tard, le peuple, par la grâce de Dieu, a pu retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple et reconstruire aussi les murailles de la ville. Et ce peuple avait des leaders comme Néhémie, Esdras, Zorobabel. Vous connaissez pour la plupart ces histoires. Et nous sommes 4 siècles avant la venue de Jésus. J'avais fait une prédication sur le premier chapitre du livre de Néhémie, et il y a plus de détails sur le contexte si vous le désirez. Et nous allons voir, dans le texte que nous allons étudier ce matin, plusieurs miracles. Moi, j'aime bien lire les miracles. Dans l'Ancien Testament, il y a de nombreux miracles, et Dieu démontre à son peuple sa gloire et sa majesté au travers d'actions miraculeuses. Et nous allons voir ensemble ce matin pas moins de 3 miracles qu'a fait Dieu parmi son peuple. Je m'inspire beaucoup du travail de Peter Adam, notamment sur son commentaire sur Néhémie. Son travail m'a beaucoup influencé de qualité et donc j'ai repris cette expression de miracle de la part de Peter Adam. Alors, je vous propose de commencer notre voyage en lisant en Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8, et nous allons parcourir ensemble une partie de ce chapitre, et nous allons voir le premier miracle qui se passe en Néhémie 8. Et je vais lire les versets 1 à 3. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes. et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui était devant la porte des eaux en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture de la loi. Le premier miracle, le peuple voulait connaître la Bible. Le peuple désirait qu'on lui lise la parole de Dieu. Et pendant 4 heures, le peuple s'est rassemblé pour écouter les paroles de Dieu. Ils ont tous ensemble désiré écouter ce que Dieu avait à leur dire. Quel miracle ! Quel miracle ! Ce peuple qui, 3 générations avant, s'était détourné de Dieu, qui ne voulait plus écouter les paroles de Dieu, désire entendre ce que Dieu a à lui dire. L'une des raisons, comme je vous l'ai dit, de la déportation, de l'exil, était le jugement de Dieu, parce qu'il ne voulait pas écouter les paroles de Dieu. Et l'auteur du livre des Chroniques résume, je vous lis ces 2 versets, à la fin du livre des Chroniques, ce qui s'est passé. « Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel qui l'avait sanctifié à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée les jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Plus tard, dans l'histoire, nous voyons aussi que Jésus a été rejeté par son peuple. Rejeté non pas tant pour ses actes que ses paroles. Les apôtres aussi sont fait rejeter par les paroles qu'ils proclamaient. Aujourd'hui, nous sommes de la même nature et naturellement, l'homme ne désire pas entendre ce que Dieu a à lui dire. Et dans cette situation, à cette époque, au temps de Néhémie, nous voyons que le peuple veut entendre ce que Dieu a à lui dire. Le peuple désire connaître les paroles de Dieu. Certains d'entre eux, la plupart, même probablement là, de cette assemblée, sont nés à Babylone, dans l'exil. Et peut-être qu'ils n'ont jamais entendu le livre de la loi. On leur a raconté. Et là, ils peuvent entendre toute la loi de Dieu. Et pendant 4 heures, la loi de Dieu est lue et expliquée au peuple. Comme Jésus l'a dit, nous ne vivons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La prédication de la parole de Dieu est donc quelque chose de capital pour le peuple de Dieu. Nous avons besoin d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Dans nos conversations, tout au long de la semaine, nous partageons nos idées, nous échangeons, nous parlons de notre expérience, nous débattons, nous confrontons les choses. Mais qu'il est précieux pour le peuple de Dieu de s'arrêter chaque semaine pour entendre ensemble ce que Dieu a à lui dire. Nous avons, je crois, ce besoin de faire une pause et d'écouter Dieu. Alors, qu'ont-ils appris à cette époque en écoutant Dieu? Qu'ont-ils appris en lisant les livres de Moïse, les livres de la loi? En Genèse, ils ont appris que Dieu est le Dieu créateur de toutes choses et le Dieu qui fait alliance avec des hommes. Et puis en Exode, ils ont vu que Dieu est le Dieu qui délivre son peuple et qui le conduit. En Lévitique, ils ont vu que Dieu est un Dieu saint tellement saint, mais un Dieu qui pourvoit au pardon par les sacrifices. En Nombre, ils ont vu que Dieu pourvoit à son peuple dans les temps difficiles. Et en Deutéronome, que Dieu prend soin de son peuple. Quelle redécouverte pour ce peuple. Imaginez tout redécouvrir de Dieu au travers de sa parole. Quel effet ça a eu dans leur cœur. Ils ont voulu redécouvrir Dieu et ils ont compris que Dieu se révèle à son peuple par sa parole. Nous, aujourd'hui, nous avons encore et toujours autant besoin d'apprendre à connaître Dieu. Toujours. D'apprendre à le redécouvrir, nous rappeler qui il est. Comment ne pas tomber dans le légalisme? Comment ne pas s'éloigner de Dieu? Comment ne pas être même une secte basée sur la Bible? Parce qu'il en existe beaucoup de gens qui se prétendent être une église, être le peuple de Dieu, et qui sont des mouvements sectaires. Comment lutter contre une culture d'église locale qui s'attacherait particulièrement à tel commandement au détriment de tel autre? Comment éviter d'être une église qui est des dadas uniquement? En étant une église qui régulièrement écoute tout ce que Dieu a à lui dire. Nous avons besoin de connaître l'ensemble du conseil de Dieu, toutes les paroles de Dieu. D'ailleurs, c'est pour cela, une parenthèse, je me rappelle à ce que nous avons fait il y a l'année dernière, et je suppose que, que l'Église continue à le faire. J'avais beaucoup apprécié, par exemple, les études suivies que nous faisions dans les groupes de quartier. Nous prenions la parole de Dieu et nous étudions tout un livre. Nous voyons tout ce que Dieu veut nous dire dans ce livre. Ou lorsque nous avons fait ces prédications suivies, où semaine après semaine, nous étudions un livre de la parole de Dieu. Il n'y a pas de sujet tabou dans les Écritures pour le peuple de Dieu. Aucun sujet tabou. Et la parole de Dieu aborde des sujets qui sont importants. Et des sujets comme la sexualité, le divorce, l'enfer, l'élection, l'autorité dans l'Église, la soumission mutuelle, l'exercice des dons, le pardon, l'homosexualité, tiens, on en parle beaucoup en ce moment. Ce ne sont pas des sujets tabous pour Dieu. Dieu en parle et nous avons besoin d'entendre ce que Dieu a à nous dire sur tous ces sujets-là. Et ceci nous mène au deuxième miracle qu'il y a dans ce chapitre 8 du livre de Néhémie. Et je vous propose maintenant de le découvrir en lisant les versets 4 à 8. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaya, Uri, Ilkia, Maaseya, et à sa gauche, Pedaya, Michaël, Malkia, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. C'est la première chaire mentionnée de l'histoire. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Shérébia, Yamin, Akoub, Shabbetai, Odia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pelaya et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Deuxième grand miracle, Dieu a donné à son peuple des prédicateurs de sa parole pour expliquer et enseigner le peuple. Et parmi eux, celui qui nous est particulièrement présenté, mis en avant, c'est Esdras. Esdras connaissait très bien la loi de Moïse, et c'était ce qu'on peut appeler vraiment un prédicateur. Dans le livre d'Esdras, qui précède celui de Néhémie, il nous est dit au chapitre 7, verset 10, qu'Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Esdras était un homme consacré à l'étude de la parole de Dieu, consacré à l'obéissance à Dieu. Ce qu'il étudiait dans sa vie, il voulait que ça se transforme dans du vécu. Ce qu'il étudiait de la parole de Dieu, il voulait le vivre. Lire, méditer et vivre. Et ce que Esdras apprenait, il le partageait au peuple. Son but était d'enseigner le peuple de Dieu sur tout ce qu'il apprenait de Dieu. Quel homme généreux! Quel homme généreux! Quel cadeau merveilleux du Seigneur d'avoir donné à son peuple des hommes qui s'attachent fidèlement à sa parole et qui désirent l'enseigner. On voit aussi dans le Nouveau Testament que les apôtres avaient mis cette priorité-là, à l'étude de la parole, à la prière, pour enseigner le peuple. Le rôle du prédicateur. Alors vous voyez, c'est une prédication sur la prédication. Vous n'en avez peut-être pas l'habitude, vous l'avez compris, hein, le sujet. Mais le rôle du prédicateur est d'expliquer la parole de Dieu et d'inviter le peuple de Dieu à obéir à ce que Dieu lui dit. Il n'est pas là pour se mettre en avant, mais pour mettre en avant les paroles de Dieu. Il doit s'effacer derrière elles et vouloir que le peuple de Dieu saisisse les paroles de Dieu et désire les appliquer, être renouvelé par la parole de Dieu. Il n'est pas là pour se mettre en avant. Il doit être motivé par l'amour, la générosité pour le peuple de Dieu. Peter Adam, dont je vous ai parlé, était un doyen de la faculté de théologie de Sydney, et il enseignait la prédication, l'homilétique, dans sa faculté. Et à la fin, il faisait toujours passer un examen final, un entretien avec ses étudiants. Et il attendait que ses étudiants, qui étaient des prédicateurs, qui apprenaient ça, lui disent une chose. Lui, il leur posait cette simple question. Il leur disait « Pourquoi est-ce que vous aimez prêcher ?» Et il attendait une réponse particulière. Et si l'étudiant ne répondait pas correctement, il lui proposait un rendez-vous un mois prochain. Et tant qu'il n'avait pas répondu correctement, il renouvelait le rendez-vous. Et cet étudiant n'était jamais diplômé tant qu'il n'avait pas donné la bonne réponse. Ce que Peter Attan voulait entendre de la bouche de ses étudiants, c'était que ce qui les motive à prêcher, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour leurs frères et sœurs. Le prédicateur n'est pas là pour donner son avis, ni pour faire rire ou amuser. Il est là pour exposer les Écritures de Dieu et inviter le peuple de Dieu à répondre aux Écritures. La Bible rappelle d'ailleurs que les enseignants de la parole de Dieu seront jugés plus sévèrement. Moi, c'est quelque chose qui me fait trembler là ce matin, parce que je sais que devant mon Seigneur, je devrais rendre des comptes pour chaque mot que j'ai dit. Chaque mot. John Piper rappelait à un séminaire l'année dernière à l'IBG le commandement que Paul a donné à Timothée sur la prédication. Et il soulevait très justement que c'est le commandement le plus solennel, le plus souligné de tout le Nouveau Testament. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition dans le royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Prêche la parole. Ton ministère, prêche la parole en toute occasion. Ne prêche pas ton avis, ne prêche pas des conseils, ne prêche pas un thème, mais prêche la parole de Dieu. Malheureusement, certains chrétiens ne se confronte à la parole de Dieu que le dimanche matin. C'est le seul moment où ils entendent la parole de Dieu. Mais quand bien même tout le peuple de Dieu méditerait les paroles de Dieu tous les jours, sans exception, pour progresser, ressembler à Christ toujours plus, nous aurions toujours besoin de la prédication. L'Église, jusqu'au retour du Seigneur, aura besoin de la prédication. Et Jean Calvin, au moment de la réforme de tête, disait que la marque principale de l'Église était que la parole de Dieu devait y être prêchée fidèlement et écoutée fidèlement. C'est capital pour la vie de l'Église. Alors, quelles applications pour nous ? Premièrement, prions pour ceux qui ont ce rôle de la prédication. Prions pour eux. Cela demande de longues heures d'études et de préparation. Pour la plupart d'entre nous, les prédications se font le soir, après le travail, après la nuit de vendredi à samedi, toute la journée de samedi et une partie de la nuit de samedi à dimanche. Et souvent, le prédicateur arrive ici et croyez-moi, il est rincé, il est très fatigué parce qu'il a dû beaucoup travailler en plus de toute sa charge de travail de la semaine. Priez que le Seigneur le conduise dans ses longues heures d'étude. Priez pour qu'il soit soumis à la parole de Dieu et que ce soit un homme consacré à son étude. Priez et prions pour les anciens qui ont cette charge aussi de veiller à ce que l'enseignement soit droitement dispensé dans l'Église. Prions que le Seigneur les conduise vraiment là-dedans. Prions parce que c'est un des exercices aussi de leadership, de conduction du peuple qui est essentiel dans l'Église. Et c'est quelque chose de très important. Alors prions pour ça aussi. Prions aussi pour leur humilité et leur fidélité et que leur motivation ne soit pas leur gloire personnelle, mais la gloire de Dieu. Deuxièmement, encourageons aussi les prédicateurs. Je ne dis pas ça pour moi aujourd'hui, je veux, vraiment. Mais je pense que c'est important d'encourager ceux qui ont ce ministère-là, comme nous encourageons tous les ministères. Remercier pour le travail qui est fourni, pour les heures consacrées à ça. Démontrer de l'amour, c'est quelque chose qui édifie toujours. Cela nous mène au troisième miracle. Que s'est-il passé après pour le peuple ? Dieu a donné la soif au peuple d'écouter la parole de Dieu, il lui a donné des prédicateurs pour lui enseigner. Et que se passe-t-il après ? Lisons la suite jusqu'au verset 12. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Il leur disait, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, calmez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Quand la parole de Dieu est présente, Dieu est présent. En recevant sa parole, c'est Dieu lui-même que nous recevons. Jean Calvin encore lui disait, nous devons à l'Écriture le même respect que nous devons à Dieu lui-même. Non pas en tant qu'objet, la Bible, mais le message. On adore pas, on n'a pas de respect envers le papier. On a du respect envers la parole de Dieu. parce qu'elle émane de Dieu lui-même. Vous avez vu qu'il y a des larmes de tristesse. C'est parce qu'ils ont réalisé à quel point ils étaient loin de Dieu. En étant confrontés à la parole, ils ont réalisé leur distance de Dieu. Et puis ils ont aussi, en étant enseignés, compris à quel point Dieu les pardonnait et à quel point Dieu les aimait. C'est ce que nous découvrons aussi dimanche après dimanche. Dieu nous communique sa grâce par sa parole. Et nous avons besoin d'être renouvelés dans sa grâce, renouvelés dans sa parole. Cette grâce nous pousse à changer. Elle nous renouvelle, nous le voyons dans ce texte, spirituellement et émotionnellement. Ils se réjouissent, ils sont remplis de joie. Parce que la relation avec leur Dieu est renouée. John Piper disait que la prédication répond parfaitement à notre besoin d'être renouvelé pour voir Dieu et savourer Dieu. Dieu a ordonné que sa parole prenne une forme qui enseigne l'esprit et qui atteint aussi le cœur. En ce sens, la prédication est un temps aussi d'adoration du peuple de Dieu à partir des Écritures. Si nous avons tendance à dire que nous avons au culte un temps d'adoration, d'expression de louange, puis après un temps d'enseignement, comme s'il y avait une, deux parties distinctes, nous ne sommes pas dans ce que nous révèle la parole de Dieu. Nous adorons aussi Dieu à partir de ce qui nous relève. Et la prédication est un temps où nous écoutons Dieu, où nous lui laissons toute la place pour nous parler, et nous transformer, nous renouveler, nous reprendre. Et ça, c'est un signe d'adoration aussi, vouloir écouter Dieu. Alors, quelles applications pour nous ? Effectivement, louer Dieu ensemble, adorer, c'est super. On aime ça. Moi qui suis dans un contexte maintenant d'implantation d'église, nous sommes quelques-uns, et c'est vrai que quand on revient là et qu'on est nombreux, et qu'on entend les chants, toutes ces bouches qui expriment à Dieu leur amour, c'est saisissant. Ça fait beaucoup de bien. Et Dieu aime ça. Il aime nous voir l'adorer comme ça. Si, comme nous l'avons vu hier soir, c'est conforme à notre vie aussi, que ce n'est pas qu'une louange qui vient de la bouche, mais qui reflète l'état de notre cœur, le désir de le louer. Mais c'est aussi un temps où nous sommes là pour écouter ce que Dieu a à nous dire en tant que peuple, en tant que communauté locale. Alors moi, je me pose la question et je vous pose cette question. Avec quelle attitude de cœur accueillez-vous les prédications dimanche après dimanche? Si vous êtes comme moi, j'ai dû me repentir de nombreuses fois parce que quand le frère est monté sur l'estrade, j'ai dit « Oh non, pas lui, je suis fatigué ». Et puis il commence à être long. Et il y a la dinde qui va trop cuire. Et puis au fait, qu'est-ce que j'ai à faire cet après-midi? Et est-ce que ça c'est prêt? Et cette semaine, j'ai tant de choses à faire. Ou peut-être que je pense que ce matin, j'ai pas à apprendre. J'ai rien à recevoir. Ni de lui. Ou à ce texte de la parole de Dieu, celui-là je le connais. Plus rien à découvrir. Vous savez qu'on décide d'accorder en général, dans un discours comme ça, à quelqu'un qu'on connaît, 30 secondes, pour savoir si on va l'écouter ou pas. Nous offrons 30 secondes à Dieu pour savoir si nous allons l'écouter ce matin ou pas. Alors si je compte, ça se trouve, il y en a, ça fait maintenant presque 20 minutes qu'ils ont décroché, mais quel effort, quelle disposition, quelle attitude de cœur quand Dieu vient parler à son peuple au travers de la prédication. N'oublions pas que la prédication est une puissance, une démonstration du Saint-Esprit, où il nous révèle qui est Dieu, ce qu'a fait Christ à la croix. Et en entendant l'Évangile, en entendant juste l'Évangile, une personne peut être sauvée. quand elle réalise, comme Ricardo le disait, que Dieu le Père, à la croix, n'a pas vu Dieu le Fils, mais qu'il a vu le péché, et qu'à la croix, il a châtié le péché pour pouvoir nous pardonner et nous sauver, et que grâce à ça, il nous appelle ses enfants, et que nous devenons son peuple. En entendant ce message, une âme peut être sauvée. Elle peut passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et je sais que Florent Varac, un ami cher, un frère qui est dans une église à Lyon, pasteur, quand il forme des jeunes à la prédication, la première chose qu'il fait avec eux, c'est qu'il les emmène dans un cimetière. Et il leur dit, quand vous allez prêcher un message d'évangile, vous allez prêcher comme si vous étiez face à un cimetière. Parce qu'il y aura en face de vous des gens qui sont morts, spirituellement. Mais en entendant la parole de Dieu, ils vont passer à la vie. Le peuple de Dieu a besoin de la parole de Dieu, tout le temps. Alors avec quelle attitude de cœur allons-nous écouter la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes orgueilleux comme ce peuple israélite à l'époque qui ne voulait plus écouter Dieu? Pour conclure, je voudrais vous partager une expérience que j'ai eue quand je faisais ma formation d'éducateur spécialisé. J'ai travaillé dans un foyer pendant un an et demi avec des adolescents qui étaient placés là par la justice. La plupart étaient en rupture totale, rupture familiale, sociale. Et certains de ces jeunes n'avaient plus de famille, plus de parents. Mais certains d'entre eux avaient un père qu'ils connaissaient, mais qui ne les aimait pas. Un père qui ne voulait pas leur parler. Je ne vous explique même pas les dégâts dans la vie de ces jeunes. Est-ce qu'on peut s'imaginer ce que c'est que d'avoir un père qui ne veut pas nous parler, qui nous ignore? Quelle détresse! Et quelle détresse pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, si notre Père ne désirait pas nous parler, combien nous serions perdus. Et nous pouvons nous réjouir, parce que nous savons que Dieu nous parle fidèlement, dimanche après dimanche, au travers de la prédication. Ma prière pour notre Église, c'est que Dieu fasse pour nous ce qu'il a fait au temps de Néhémie. Qu'il nous donne une soif de sa parole, des enseignants fidèles, qu'il les renouvelle, et un désir d'être transformé par sa parole, de vivre ce qu'il nous enseigne. Je vous propose que nous prions ensemble et que nous chantions à la suite le chant « Merci pour ta parole ». Numéro 82. Je vous invite à ce que nous inclinions et que nous prions. Seigneur, c'est tellement extraordinaire de savoir que toi, qui es le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, qui a créé toutes choses, qui tient toutes choses fermement dans ses mains, qui est un Dieu saint, tu désires nous parler chaque dimanche au travers de la prédication. Merci Seigneur pour ça, du fond du cœur. Merci parce que tu nous renouvelles par ta parole, tu nous communiques ta grâce et tu nous montres ton amour pour nous et ta sainteté. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous as laissé tout ce message que nous savons infaillible, Seigneur, parce que ce sont tes paroles. Merci Seigneur parce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance, mais tu nous montres que tu es un Dieu qui désire une relation ardente, intime, profonde avec son peuple. Merci Seigneur. Alors, crée en nous, Seigneur, ce désir d'entendre ta parole. Que nos cœurs soient bien disposés, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Donne-nous de l'amour pour elle. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont la charge de l'enseignement, d'une quelconque manière, Seigneur, que tu les bénisses, que tu les renouvelles, que ta parole les nourrisse abondamment pour qu'eux aussi, comme Esdras, puissent retransmettre, Seigneur. Nous avons besoin de ça profondément. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et Seigneur, donne-nous ce désir d'être transformés par ta parole, qu'en tant que communauté, en tant que peuple, nous puissions vivre ce que tu nous enseignes. Et tout ça, Seigneur, pour que tu sois glorifié au milieu de ton peuple. Amen.